Cascodeur Podcast, épisode 152. Interview sur la productivité personnelle avec Guillaume Lours. Enregistré le 20 juillet 2016. Et bienvenue au Cascodeur, épisode 152. Et nous allons parler de productivité personnelle avec Guillaume Lours.
Oui, on dit Guillaume Lours, Emmanuel. On peut prononcer le S.
On peut. Là, c'est un peu anti-français parce que normalement, les dernières lettres, on les prononce jamais.
Je suis d'accord avec toi, mais voilà. Bon, enfin, moi, bon, j'étais habitué comme ça. Il n'y a aucun souci.
Excuse-moi. Cela dit, j'ai défoncé des noms bien pires que ça. Explique-nous qui tu es, ta vie, ton œuvre et peut-être une relation avec la productivité personnelle.
En fait, je suis un développeur qui a à peu près 15 ans d'expérience. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années en société de service pour ce qu'on appelle des grands comptes. J'ai commencé par faire du WinDev, ouais. Donc je connais ces fameuses pubs super suggestives.
Ah, c'est bon, ça.
et au fur et à mesure de ma carrière, voilà, j'ai découvert plein de types de projets pour terminer sur, assez rapidement passer sur du Java. En 2009, je suis devenu indépendant. Pourquoi ? Pour pouvoir en fait faire un peu plus d'agilité, parce que dans la société de service dans laquelle j'étais. C'était bien l'agilité pour faire des petits déjeuners avec les clients, quoi, mais dès qu'il fallait en faire pour de vrai, ça les intéressait plus. Donc, je me suis mis à mon compte, j'ai pu travailler sur des trucs super sympas pendant des startups et tout. Et puis, depuis quelques mois, je travaille pour Sagi.io, qui est une plateforme big data prête à l'emploi, en fait, où on permet à nos utilisateurs de faire de l'extraction de données, de la transformation et de la visualisation. Et moi, je travaille plus particulièrement sur le produit de visualisation des data. Voilà.
Alors, on va parler d'organisation, pourquoi, et puis de deux méthodes en particulier, une qui s'appelle Personal Kanban et puis l'autre qui s'appelle Getting Things Done. Et donc moi, je suis Monsieur Getting Things Done et Guillaume, c'est Monsieur Personal Kanban. Donc on va d'abord expliquer un peu peut-être pourquoi on s'est mis à ces méthodes-là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, pour que tu te dises « Ah, ça va plus du tout, faut que je m'organise, là, c'est un scandale ».
En fait, c'est durant la période où j'étais en société de service, je me suis retrouvé amené à travailler sur un gros projet avec des clients un peu compliqués sûrement l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans cette société de service, on m'a offert les services d'un coach de vie. Ce coach de vie a été un petit peu plus loin que la mission pour laquelle il avait été mandaté et il m'a aidé à travailler sur ma façon de faire, de voir les choses, de lâcher prise. Et il a commencé à semer une petite graine, en fait, sur l'organisation personnelle. Mais ça restait à mon goût un petit peu light. Et puis, j'arrivais surtout pas à faire ce que je voulais. C'était à base de tâches à faire, enfin, de listes de tâches à faire, ce genre de choses. T'as peut-être jamais travaillé en société de service, mais quand tu commences à avoir quelques responsabilités, puis qu'on te met 5 ou 10 projets en frontal et qu'il faut que tu gères des équipes, t'en as un peu de partout. Et je me suis en fait retrouvé sous l'eau plus d'une fois. Cet homme m'a aidé à m'en sortir un peu. Et c'était pas suffisant. Et je suis allé creuser un petit peu à côté ce qu'il y avait. Et là, j'ai découvert Personal Kanban. Donc en gros. Pourquoi ? Quels étaient les symptômes ? T'as des tâches qui arrivent, on te propose de faire des choses que tu sais faire, c'est censé rentrer dans ton calendrier, mais en fait, t'y arrives pas, puis tu fais plus rien, et il y a rien qui sort, et tu te retrouves pas en burn-out, mais dans un état qui, je pense, s'en rapproche à peu près, où il y a plus rien qui sort, quoi. Et c'est durant cette période en société de service que je me suis un peu intéressé à ces techniques personnelles.
D'accord. Alors, Moi, c'est un petit peu similaire. Je crois, parce que je suis plus trop sûr, mais que c'était à l'époque où donc j'avais mon boulot 100% du temps, et puis je m'étais dit, tiens, je vais écrire un bouquin sur Hibernate Search, ça va être super, etc. Et en fait, écrire un bouquin, bon, c'est une expérience assez traumatisante pour ceux qui l'ont déjà fait. Et puis voilà, je me suis senti à patiner, à avoir plein de choses à faire et pourtant d'arriver à délivrer quasi rien par jour. Et du coup, c'était le paradoxe, quoi. J'avais plein de trucs à faire et j'arrivais pas du tout à avancer. Et puis, je sais pas comment j'ai trouvé cette technique. Alors au début, effectivement, on fait des listes et puis on commence la liste. Donc ça nous relaxe un petit peu. Et puis après, on dit, ah ouais, mais il faut que je fasse ça d'abord en priorité. Donc après, on fait des listes de priorités par-dessus la liste. Bref. Donc ça a jamais vraiment marché. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours expérimenté, les listes, parce que j'ai une mémoire un peu catastrophique. Et puis à un moment, ça, donc j'ai je sais pas comment, mais j'ai découvert cette méthode, Getting Things Done, qui m'a fait repenser, voilà, la façon complète dont je m'organisais, et surtout aussi la façon dont on priorise les choses dans sa vie, que ça soit perso et pro, parce que c'est un petit peu tout mélangé, ça. Pourquoi est-ce qu'on est stressé, qu'on n'arrive pas à avancer? C'est qu'à un moment, il y a un malaise, donc il y a des choses à trouver, ou en tout cas à clarifier dans sa tête. Justement, t'en parlais dans ta presse sur Personal Kanban. C'est pourquoi est-ce que quand on a plein de tâches, on est paralysé, qu'on n'arrive plus à en faire une seule?
Et ben en fait, c'est assez particulier. C'est notre cerveau qui est un super moteur à un rappel. Sauf qu'en fait, il a juste un petit problème, c'est qu'il nous rappelle des choses jamais au bon moment. Et en fait, dans les moments où on a besoin d'être vraiment très concentré, il intervient de telle manière qu'on n'arrive jamais à être concentré, il nous perturbe et il essaye de nous faire commencer d'autres choses en fait. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on verra tout à l'heure quand j'écrirai Personal Kanban, mais on commence plein de choses et on termine rien. Et c'est là où on se retrouve dans cette situation un peu paradoxale, comme tu disais, où on a plein de choses, on sait les faire, on a le temps pour les faire, et puis en fait, au final, il n'y a rien qui est terminé.
Ouais. Et pourquoi les to-do list, ça marche pas?
Les to-do list, pourquoi ça marche pas? Dans Personal Kanban, on dit même que c'est le diable, les to-do list. Les to-do list, ça marche pas parce qu'il y a plein de raisons. En fait, la première, c'est que c'est pas contextualisé. Et ça, on verra que Personal Kanban, c'est l'un de ses points forts, c'est la contextualisation du travail. C'est pas du tout contextualisé. Donc, tu prends les tâches, on va dire, presque dans l'ordre, et tu l'as dit toi-même, hein, tu commences à refaire une liste de choses plus prioritaires parce que voilà, ces to-do list par défaut te permettent pas d'avoir assez d'informations sur chacune des tâches que tu as à réaliser. L'autre problème, c'est que ça n'a pas un côté narratif. On verra avec Personal Kanban, en fait, on est capable, une fois qu'on a terminé une tâche, de raconter un petit peu son cycle de vie à cette tâche. Avec une to-do list, on ne le sait pas. Et puis le vrai problème, et alors là, ceux qui me connaissent un peu sauront de quoi je parle, c'est que c'est poussé, en fait. Les to-do list, ça te pousse des tâches, alors qu'on verra que dans Personal Kanban, on travaille en tirant les tâches, c'est-à-dire qu'on prend les tâches qu'on est capable de les réaliser, quoi. Donc ça, c'est les principaux désavantages des to-do list, mais en fait, il y en a plein, 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 hein, notamment si tu fais des to-do list papier, est-ce que tu as déjà essayé de les reprioriser? Tu prends une paire de ciseaux, du scotch, et puis tu raccroches tout, là. Je pense qu'au
Ouais.
bout de 5 repriorisations, ça ressemble plus à rien, quoi. Bon, évidemment, c'est un petit troll parce que maintenant, on a des outils numériques pour ça, quoi, mais sur le principe, c'est toujours un peu là, quoi.
Ouais. Alors on va zoomer sur Personal Kanban, on va essayer de se limiter à 20 minutes. Après, je fais Getting Things Done, qui est une. En fait, c'est basé sur les mêmes raisons, cette idée de cerveau qui panique parce qu'il a tellement de choses à faire qu'il vous rappelle les choses au lieu de vous laisser vous focaliser sur la tâche que vous avez décidé de faire à ce moment-là. Et il y a plein de choses qui sont en commun, et cette interview, elle vient d'une discussion qu'on a eue à Devox, où j'expliquais comment je marchais, les problèmes que j'avais. Toi, tu me disais, bah, essaye Personal Kanban, et au final, moi, j'utilise un peu les deux. On en parlerait après, mais on va d'abord commencer par Personal Kanban, qui est la méthode la plus simple, en tout cas, entre les deux.
Ouais, clairement la plus simple, puisque un workflow d'utilisation beaucoup plus léger. Alors, pour commencer, Personal Kanban, ça a été créé en 2009 par Jim Benson et Tonian de Maria Barry, sont des gens qui sont très proches de David Anderson, qui est le créateur de Kanban pour l'IT. Et en fait, ils sont partis du principe que Kanban pour l'IT, c'était vraiment bien, et voilà, mais que c'était peut-être un peu trop compliqué, et il y avait peut-être un peu trop de choses au départ pour gérer une équipe. Alors ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que Personal Kanban porte très bien son nom, c'est qu'au départ, c'est une méthode de gestion de projet pour des équipes. Il s'avère que là où il est vraiment, enfin moi, à mon sens, le plus efficace, c'est dans la gestion des tâches personnelles. En plus, quand on côtoie un petit peu les milieux d'agilistes et tout, on parle toujours de la gestion de l'équipe et rarement du travail que doit faire une personne, elle, au sein de l'équipe. Et je trouve que c'est une bonne approche pour savoir s'organiser soi-même à l'intérieur de son équipe. Donc 2009... Et basé sur Kanban qui a six pratiques.
Un peu, ouais. Mais c'est bien connu. T'as ta liste de tâches qui est dans Boxzilla et tu n'as rien d'autre à faire bien, de 9h à 18h que ces tâches-là.
Exactement. C'est tout à fait ça. Et en fait, je sais même pas pourquoi ils ont fait cette méthode, puisque un simple gestionnaire de tickets suffit, quoi. Pour gérer ton temps. Non, mais ouais.
Exactement.
Blague à part, c'est que voilà, on a un vrai problème. Bon, je vais y venir, mais on gère notre temps comme si c'était une capacité, alors qu'en fait, c'est plutôt du débit. Voilà. Et c'est l'une des forces de Personal Kanban. Donc, en gros, Personal Kanban, ça reprend deux des principales propriétés de Kanban, qui sont la visualisation du travail et la limitation du travail en cours. Donc, ça veut dire que on va essayer de rendre visible ce qu'on a à faire. Donc ça, au travers, si on a un tableau physique de post-it, de taille, de couleurs différentes en fonction du contexte, des tâches, et on va le faire évoluer ces post-it au sein de ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, en fait, c'est ni plus ni moins que l'ensemble des actions que vous avez à réaliser pour terminer une tâche. D'accord ? Donc, on peut en effet se dire que, en fonction de ce qu'on gère dans notre Personal Kanban, est-ce qu'on gère des choses perso, est-ce qu'on gère des choses liées à un projet, est-ce qu'on gère le mix des deux, et on va avoir une chaîne de valeur qui va être plus ou moins différentes. Donc cette chaîne de valeur, si je prends un exemple concret, en me basant sur Scrum, c'est to do in progress done, quoi. Voilà. Bon, ça c'est peut-être un peu trop simple et trop trivial, mais c'est la première chaîne de valeur qu'on pourrait mettre en place. Donc ça va s'appeler.
Pourquoi vous appelez chaîne de valeur? Ça a l'air d'être un cycle de vie un peu. C'est plus compliqué qu'un cycle de vie.
Ouais, parce que c'est vraiment un ensemble d'étapes et cycle de vie fait que tu pourrais, tu suivrais un process. Là, dans Personal Kanban, ah oui, c'est une des différences avec Kanban, c'est que on a le droit de revenir en arrière. Donc on peut pas juste dire que c'est un cycle de vie. C'est vraiment tout ce que tu as réalisé pour apporter la valeur finale à ta tâche, quoi. D'accord, pour moi, ça se limite pas juste à un cycle de vie.
D'accord.
On va faire évoluer nos tâches au sein de notre chaîne de valeur et pour faire en sorte qu'on arrive à terminer les choses et pas en commencer d'autres et que notre cerveau nous laisse un petit peu tranquille, on va mettre sur chacune des étapes de notre chaîne de valeur des limites. Et ces limites, elles vont nous servir à ne pas commencer plus de choses que ce qu'on a décidé. Alors, on va imaginer que pour une personne qui travaille toute seule et qui fait son personal Kanban personnel pour gérer ses tâches au boulot, eh ben, elle va, par exemple, avoir sa colonne in progress avec une limite de 3, c'est-à-dire, ou de 2 plus 1. En gros, je ne m'autorise pas à commencer plus de 2 tâches en parallèle. Et le plus 1, on va dire que c'est si j'ai une urgence, je m'autorise à dépasser cette limite. Voilà. Ça pourrait être un exemple. Et puis si j'ai d'autres colonnes derrière, eh ben je vais rajouter des limites aussi. Et l'idée de tout ça, ça va être de fluidifier le passage de mes tâches dans la chaîne de valeur. Comme on se base sur Kanban et que l'intérêt de Kanban c'est de commencer par terminer, ces limites vont naturellement mettre en place ce qu'on appelle un flux tiré. Et pour pouvoir commencer en fait une nouvelle tâche, il va déjà falloir que j'en termine d'autres avant. Voilà. C'est un peu le principe simple,
que j'abandonne,
voilà, de personal Kanban.
Et tu peux décider d'abandonner une tâche et d'en...
Bien sûr, tu peux décider d'abandonner une tâche.
Ou de la remettre à... Enfin, est-ce que tu peux dire, attends, j'ai cette priorité, j'étais déjà à 3, tant pis, je vais pas chercher, je sais pas, le bateau pour aller en Corse, donc je le remets en affaire, et puis du coup, je mets corriger bug.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est l'une des grandes différences avec Kanban pour l'IT, c'est que Kanban pour l'IT, en fait, la chaîne de valeur, on n'a pas le droit de revenir en arrière sur la chaîne de valeur. Or, dans Personal Kanban, on s'autorise les retours arrière. Donc voilà, on va.
C'est parce que Kanban c'était fait par des Japonais, tu sais, ils ont plus le droit. Il y a un honneur, tu veux pas revenir.
Non, en fait, surtout c'est qu'on a une différence qui est importante, c'est que dans Kanban on mesure notamment beaucoup de choses et on mesure ce qu'on appelle le temps de cycle. Donc c'est le temps de traversée d'un élément du début jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Or dans Personal Kanban on ne mesure pas, enfin ça fait pas partie des objectifs de mesurer ce temps de cycle. Donc on peut se permettre de revenir en arrière et voilà. Tout ça pour en fait donner plus de contexte aux tâches et savoir vraiment où elles en sont. Dans Kanban, par exemple, si on a une tâche qui est bloquée dans une colonne de test parce qu'il y a un bug, et ben en fait on va la laisser dans la colonne de test et puis on va mettre un petit marqueur dessus pour se dire que voilà on est bloqué dans la colonne de test. Alors que dans Personal Kanban, et ben on reviendrait dans la colonne de développement par exemple. On s'autoriserait à le faire plus facilement. C'est pour ça aussi que c'est plus simple et que ça fonctionne mieux à titre personnel, en fait, parce qu'il y avait un peu plus de souplesse que dans Kanban qui, du coup, vient avec un peu plus de rigidité. Donc, voilà un petit peu pour les grands principes. Et en gros, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que c'est simple déjà à mettre en place. Et puis, on a des choses qu'on récupère avec cette visualisation. En gros, si je termine une tâche et que je dois en commencer une nouvelle, contrairement à par exemple une to-do list, je vois très rapidement quelles sont mes prochaines tâches que j'ai à réaliser, parce que je leur ai donné un post-it d'une taille ou d'une couleur différente. Je vais savoir du coup au travers de cette taille en fonction de ce que moi je leur aurais donné comme importance derrière, si c'est quelque chose de long, pas long, d'important, pas important, de personnel, de prioritaire, enfin voilà. Tout ça, on peut le faire ressortir au travers de la visualisation et des éléments qu'on met sur les cartes qu'on va utiliser. Et ce qui veut dire aussi que si, par exemple, je termine ma tâche qu'il est 11h30 et que ma prochaine tâche c'est quelque chose de 3h, alors que 2 tâches en dessous, j'ai un petit truc d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, et mon contexte, le fait de pouvoir visualiser l'ensemble de mes tâches que j'ai à réaliser, fait que je vais pouvoir prendre cette tâche plutôt que l'autre. Donc quand tu parlais de productivité, c'est là où je vais te reprendre un peu, je pense que Personal Kanban est plus axé sur l'efficacité, en fait. Tu vois? C'est vraiment quelque chose qui ressort, c'est que la productivité, c'est bien, mais il y a un côté un peu bête dans la productivité. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour faire des choses. L'efficacité, ça va être de faire les choses qui vont bien au bon moment en fonction de son contexte.
Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, j'ai mis productivité, mais en fait...
Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vraiment le point qui est... Enfin, où les gens se trompent. Généralement, on parle de productivité. Enfin, voilà, J'ai déjà parlé assez souvent de personal Kanban et c'est un des exemples que j'aime bien prendre, c'est que tu vas sur Amazon, tu recherches le nombre de livres sur la productivité personnelle, tu vas en avoir des tonnes, tu recherches des livres sur de l'efficacité personnelle, il y en a tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, quoi.
Ouais.
Et je pense que des fois, on se trompe un petit peu de combat.
Et l'efficacité, enfin pour moi, c'est même aussi l'équilibre qui fait que tu sais que tu as fait la tâche qu'il fallait ou les plus importantes selon toi en fonction de tes capacités, là, t'appelles ça le contexte, enfin de ce que tu peux faire, et du coup tu sais que tu n'as pas fait telle tâche pour la raison qui est que tu as fait les autres.
Exactement.
Et que tu as décidé qu'elles étaient plus importantes.
Voilà. Tout à fait. Et donc ça en fait on va voilà pouvoir gérer ses priorités. Le fait d'avoir un tableau avec l'ensemble de ses tâches. Donc l'idée hein, c'est de pas se mentir, d'être honnête avec son backlog, hein, de tout mettre, même si ça dépasse sur 2-3 murs, c'est pas grave, mais c'est son propre backlog. Si on met pas tout, on se ment juste à soi-même et bien puis là notre cerveau va revenir nous rappeler qu'on a oublié de mettre des trucs dedans. Le fait de marquer, et je pense que c'est pareil pour GTD, les choses sur une carte, sur un post-it, dans votre board en fait, dans le backlog de votre tableau, ça permet au cerveau d'oublier complètement les boucles de rétro-feedback qui nous fait régulièrement et toujours, enfin, et jamais au bon moment en fait. Alors, je me trompe pas, c'est pareil dans GTD.
Ouais, c'est l'idée, ça. C'est donc, ça. Tu as écrit qu'il faut que tu ailles chercher du lait.
Ouais.
Là, tu es au boulot, donc il n'y a pas de laiterie, ouais. Pardon, ou de supermarché. Donc, ce que tu fais, c'est qu'il a été écrit, donc ton cerveau, il est relaxé. Il est dans un endroit que tu sais que tu vas aller regarder régulièrement, qui est ton endroit sûr. Du coup, le cerveau est relaxé. Si tu l'as mis sur une to-do que tu as oubliée il y a 3 mois et que tu refais une autre to-do, ça marche pas parce que finalement, tu n'as pas confiance dans ton outil. Donc, faut vraiment avoir confiance dans... là où on met les tâches, les mettre dedans et surtout avoir une revue régulière parce que si on attend trop longtemps avant d'avoir le cerveau qui revient sur cette non-tâche pour dire ah oui c'est vrai je l'ai pas oublié elle est là mais il y a d'autres priorités, tu te remets à relancer les boucles de feedback parce que le cerveau il dit tiens ça fait longtemps qu'il n'a pas pensé au lait, il faut que je le rappelle.
Exactement. Donc voilà, donc, on a un mode de fonctionnement, on va dire, commun entre les deux, ce qui est pas plus étonnant que ça. Et donc, l'autre point, mis à part cette visualisation qui nous permet de prendre des décisions contextualisées, on a la limite du travail en cours. Cette limite du travail en cours, en fait, si vous la respectez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des résultats qui vont être stressés. C'est-à-dire que vous allez commencer plusieurs choses en même temps, vous allez... vous dire qu'il faut vite terminer cette tâche-là pour repasser à celle sur laquelle vous étiez juste avant. Donc déjà, vous allez favoriser le context switching qui est juste une des pertes de temps les plus importantes, notamment dans nos métiers de développement logiciel. Et puis en fait, vous allez stresser vos travaux et une fois que vous aurez terminé votre tâche, vous apercevrez que vous l'avez pas fait peut-être dans les meilleures conditions.
Donc ça c'est un des gros points différents avec GTD, qui n'adresse pas du tout cette notion de choses en parallèle à faire. Bon, en théorie on est censé n'en faire qu'une à un instant donné, mais c'est vrai que comme c'est pas super super explicite dans la méthodo, on a tendance à pas le faire. Donc c'est moi Kanban là ça a pris un peu du pomodoro où on dit non je suis en train de faire un truc pendant X temps et puis je vais réévaluer un petit peu après. C'est essayer de cadrer un peu le nombre de choses qu'on fait en parallèle pour avancer efficacement.
Exactement. Donc, en gros, les avantages de ces deux pratiques, on en a parlé, c'est la suppression des boucles de feedback au niveau de notre cerveau. On a surtout et encore une fois, dans nos métiers, on travaille sur des choses qui sont un peu intangibles, qui sont compliquées à matérialiser. Et le fait de les mettre sur des post-it, dans des cartes, dans un Trello, peu importe le support, mais au moins, on va les conceptualiser et ça va ressembler à quelque chose, quoi. D'accord. Les autres points forts de Personal Kanban, c'est que je parlais tout à l'heure du côté narratif qu'avaient pas les les to-do list, et avec Personal Kanban, on va l'avoir. Au moment où vous allez commencer une tâche que vous allez apprendre dans la colonne à faire, que vous allez la passer en cours dans les différentes étapes, en fait, vous allez savoir quelle est votre humeur à ce moment-là, tout ça, et en fait, votre corps va se souvenir presque physiquement de la réalisation de votre tâche au travers de la chaîne de valeur. Et ça, c'est un des gros points forts, parce que notamment lorsqu'on termine une tâche, on a un vrai sentiment de travail bien accompli et on s'est mis autant que possible dans les bonnes situations pour le faire. Et puis donc on est structuré par rapport à notre vraie chaîne de valeur. Et je vais continuer du coup sur la partie narrative de la chose. Personal Kanban, l'idéal, c'est de se faire ses propres petites rétrospectives. C'est-à-dire que voilà, par exemple, tous les deux jours ou toutes les semaines, de reprendre ce qu'on a réalisé durant cette période et de se dire, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, pourquoi, comment, et est-ce que je pourrais pas me remettre dans les meilleures conditions pour essayer de reproduire tout ça, d'accord. En gros, voilà, il y a quelques questions qui sont quelles sont les tâches que j'ai particulièrement bien réussies, quelles sont les tâches qui m'ont satisfaite, quelles sont celles qui ont été difficiles, est-ce que j'ai réalisé les bonnes tâches au bon moment et est-ce que les tâches réalisées m'ont apporté de la valeur au moment où je l'ai fait. Et l'idée, c'est de détecter des patterns derrière pour pouvoir se remettre dans les meilleures conditions pour notamment les tâches où ça a été un petit peu compliqué, parce qu'on n'avait pas envie de le faire, parce qu'on sait que c'est des choses qui nous plaisent pas, ou parce que les conditions n'ont pas été bonnes. Et l'idée de dire quels sont les moments où ça se passe le mieux pour moi et est-ce que je peux pas, ce genre de tâches, les identifier et les faire au moment où je sais que je suis le plus efficace, quoi. Voilà un petit peu pour l'overview, on va dire, de Personal Kanban. Ce qui est un petit point important, c'est de se dire, voilà, on est sur un flux tiré. Hein, on commence pas de nouvelles choses tant qu'on n'a pas terminé celles qui sont en cours, ou du moins qu'on les a pas abandonnées en prenant une décision qui est contextualisée au moment où on la prend.
Alors, j'ai des petites questions. Ouais. Alors, juste d'abord, pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer visuellement. Donc, c'est en gros des listes de listes. Ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Là, chaque élément de la chaîne de valeur, c'est en gros une colonne verticale.
Ouais, exactement.
Dans lequel vous allez, dans Personal Kanban, on met des post-it ou des tâches. Mmh. Donc, on les visuels pour les rendre un peu tangibles, comme tu disais. Et quand on dit, ça c'est dans ma to-do et je la passe dans le en cours, je prends le post-it et je le déplace.
Exactement, ouais.
Donc après, il y a des outils qui, des outils virtuels, web qui simulent ce truc-là pour garder un peu cette approche physique.
Donc, ces outils.
On est dans le skeuomorphisme.
ces outils fonctionnent, mais réellement, ils sont moins efficaces qu'un tableau physique. Ceci dit, c'est pas toujours.
Sauf quand t'as à les transporter.
Exactement, ce que j'allais dire, quand il faut transporter un tableau blanc avec soi en ville, c'est pas forcément évident, surtout pour aller chercher le lait. Voilà.
Alors, je vais zoomer un peu sur la chaîne de valeur. Là, t'as parlé vraiment de la chaîne de valeur hyper simple, to-do, backlog, to-do, backlog en cours et fait. Ouais. Déjà, le fait, tu le purges, t'entends quand même?
Ouais, après les rétros notamment, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer dessus pour se dire où est-ce que j'ai bien travaillé, pas bien, où est-ce que j'étais confortable ou pas confortable et pouvoir détecter ces patterns qui me permettront d'être un peu plus efficace la prochaine fois, quoi. Mais après, oui, ça sert à rien il y a pas de règle, c'est vraiment un niveau personnel. Est-ce que je veux garder un historique sur un mois, est-ce qu'au bout de la semaine ça me suffit? Y a pas,
moi je les garde, je les purge toutes les semaines et je regarde. Alors c'est, je sais pas si on appelle ça la vélocité, parce que je mets pas de poids à chaque carte, mais au moins je connais un peu le progrès. Et un truc que j'ai, alors moi je l'utilise, mais au sein des tâches que j'ai, enfin que j'aimerais faire au sein d'une semaine. Donc c'est pas, j'ai à faire, parce que quand on fait une tâche, et du coup qu'on décide de pas faire l'autre, c'est pas que les deux faut absolument les faire. À un moment on a décidé qu'il y en a une qui était plus importante, donc si l'autre ben on meurt parce qu'on passe sous un bus, ben celle d'avant était plus importante.
Ouais, de toute façon choisir c'est renoncer.
Voilà, c'est ça. Et du coup ça me permet un de voir qu'effectivement j'ai pas passé ma semaine à rien faire, il y a quand même des choses qui sont sorties. Après j'ai peut-être décidé qu'il y a un peu trop de perso par rapport au pro ou inversement, mais au moins ça te permet de ouais. de juger que t'as fait des choses
mais, et mais que, c'était ton voilà. contexte à ce moment-là qui fait que tu as pris ces décisions en fait, enfin dans Personal Kanban du moins c'est ça, c'est que au moment où tu as décidé de commencer une tâche plutôt qu'une autre, tu l'as fait de manière contextualisée, et ce contexte ça peut juste être tes humeurs et tes envies, quoi. Hein. C'est pas forcément toujours quelque chose d'hyper rationnel hein, non plus. Mais ouais, ouais. Voilà, au moins tu sauras dire pourquoi tu as fait ce choix, parce que en faisant évoluer tes éléments dans la chaîne de valeur, tu as le côté narratif de Personal Kanban qui viendra te rappeler tout ça, quoi.
Ouais. Du coup, donc tu dis il faut tout mettre, d'accord. Ouais. Donc des fois c'est énorme. Ouais. Alors on fait quoi? On fait quand même?
En vrai il faudrait. Je dis il faudrait parce que je pense que comme tout le monde, je fais de la procrastination, voilà, et des fois je le fais pas et ben juste mon cerveau me le rappelle toujours au moment où il faut pas quoi. Et, ouais. et sauf que bon maintenant j'ai peut-être un avis, enfin je suis peut-être un petit peu plus avisé et je m'en prends qu'à moi-même quoi. Je suis bien pas à rouspéter après autre chose, mais oui, il faut mettre son backlog en entier pour limiter en fait les boucles de feedback du cerveau et ça permet aussi de voir tout ce qu'il y a puis de se dire qu'en fait il y a des choses qu'on fera pas et de vraiment les jeter à ce moment-là quoi.
Ouais.
Et ça reviendra peut-être plus tard, mais ça veut dire que ce plus tard ça sera un meilleur moment pour s'en occuper.
Ouais. Du coup, tu parles de la chaîne de valeur. Est-ce que tu as d'autres exemples que cet exemple un peu simplissime?
Ouais, alors, si on prend une gestion des tâches perso plus pro, on n'a pas non plus des choses qui sont avec beaucoup d'actions à réaliser. Surtout si moi, par exemple, je mélange le pro et le perso. Donc, je vais pas rentrer dans des multiples colonnes qui vont concerner qu'une partie des cartes ou ce genre de choses. C'est ma décision. Hein. Je pourrais très bien dire, je mets toutes les étapes pour chaque type de carte et puis j'ai des cartes qui vont dans certaines colonnes et pas d'autres. Bon, c'est un choix. Après, il y a dans Personal Kanban deux petits power tools, on va dire, enfin, des colonnes qu'on peut rajouter dans sa chaîne de valeur qui sont intéressantes. Il y en a une qui est par exemple la colonne aujourd'hui, et dans cette colonne on va pas mettre ce qu'on doit faire absolument aujourd'hui mais ce qu'on aimerait faire dans la journée, et la nuance elle est importante, c'est-à-dire que ça peut être des choses qui en fait sont vraiment pas prioritaires par rapport à ce qu'on notre contexte de travail, voilà, mais on sait que si on les fait ou qu'on prend le temps de les faire ça nous fera du bien, et puis bah mine de rien on sera peut-être plus en forme parce qu'on aura fait quelque chose qui nous plaisait à ce moment-là pour passer à quelque chose un peu plus compliqué. Donc ça, cette colonne-là, l'idée est vraiment pas de se fixer des objectifs à atteindre, hein, mais de se dire si je peux faire ces choses-là dans la journée, ça serait vraiment super. Ouais. Et il y en a un autre qu'on appelle l'enclos, parce que c'est bien beau, hein, je me mets une limite de 3 sur les choses que j'ai à réaliser, ou 2+1, et puis il s'avère que certaines tâches, je suis peut-être pas tout seul à travailler dessus. Et que des fois,
ou alors ça compile.
Voilà. et j'attends des retours, des réponses de personnes. Les meilleurs exemples, c'est quand tu as des choses à faire avec l'administration, par exemple, quand on prend les tâches perso, et puis bah t'attends, ou t'appelles ton assurance et t'attends d'avoir un retour pour un sinistre ou je sais pas quoi. Cette tâche-là, si tu la laisses dans ta colonne en cours parce que t'es en train de travailler dessus, et bah ça va te bloquer un slot par rapport à ta limite. Et puis il suffit que t'en ailles deux comme ça et puis t'es bloqué, tu peux plus rien faire. Donc cet enclos en fait va nous permettre de mettre de côté les choses pour lesquelles on n'a plus la main, en fait, et où on est en attente de réponse. Puis dès qu'on a un retour, et ben si notre colonne principale, on va dire la doing, elle est pleine, et ben pour l'instant je le laisse dans l'enclos. Puis dès qu'une place se libère, et ben ça redevient prioritaire, enfin en fonction de mon contexte évidemment, elle peut redevenir prioritaire et devenir la prochaine tâche à réaliser, quoi.
D'accord.
Voilà, ça c'est ces deux petits trucs qui viennent aider. Bon, après il y a d'autres cas de figure un peu plus complexes qui sont notamment les tâches un peu cycliques. C'est des choses qu'on a souvent où chaque jour on doit faire la même tâche, par exemple. Et alors ça veut dire que chaque jour je dois créer une nouvelle tâche dans mon tableau et la refaire passer du début à la fin. Des fois il y a même des tâches qu'on doit faire plusieurs fois dans la journée, répéter. Là on peut avoir un sous-tableau en fait, Kanban dans une des colonnes, hein, c'est-à-dire faire une sorte d'inception d'un tableau Kanban dans une des colonnes pour justement pouvoir répéter cette tâche plusieurs fois, tout en la laissant dans la colonne à faire et puis la passer à terminer que lorsque j'ai fait le nombre d'itérations que j'avais à faire dessus. Bon, je sais pas si t'es assez clair. Bon, imaginons, je sais pas, tu dois pousser en production deux fois par jour. C'est une règle, voilà. Est-ce que tu fais deux cartes, mettre en production, voilà, mm-hmm. Et tu la fais passer. Tu prends la première, doing, les différentes étapes, les tests et tout, puis done, par exemple. Ou tu peux dans ta colonne principale doing là, avoir un deuxième tableau Kanban à l'intérieur, un personal Kanban avec un petit workflow et avoir cette tâche là mise en production et elle tu vas la faire passer une première fois jusque done et puis tu vas la remettre à doing, enfin à to do, puis tu vas la repasser, puis une fois qu'elle sera terminée la deuxième ou la troisième fois en fonction du nombre de fois que tu vas le faire, tu pourras prendre, on va dire, la métatâche et la mettre en tant que terminée.
D'accord. Voilà. Ok. Ouais.
J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à poser des questions la mailing list si jamais c'était pas limpide.
Et il y a une question sur les outils, mais avant, la granularité, c'est quoi ? C'est vraiment la tâche unitaire ?
Alors là, c'est toujours le même problème. Enfin, c'est ça va être fonction de ton contexte. Je pense qu'il faut que les tâches elles aient un sens à part entière, c'est-à-dire que on va pas forcément redécouper on peut redécouper en sous-tâches, mais ce qu'on va vouloir, c'est quand on est en train de faire quelque chose, c'est de savoir que lorsque je l'aurai terminé, quand je la passerai dans ma colonne finie, ça apportera de la valeur, quoi. Tu parles par exemple d'une fonctionnalité à développer un peu compliquée que tu vas exploser en tâches ou ce genre de choses, ou est-ce que t'as un exemple un peu concret?
Ouais, on va dire. Je sais pas. On va dire que je veux mettre la nouvelle version d'Hibernate dans Wildfly, d'accord? Okay. Ça, c'est un projet, c'est un mini-projet.
Okay.
Sauf que ça a l'air simple, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est Hibernate ORM, et comme il y a des liens avec Hibernate Search, il faut que je discute avec Sané pour que il y ait la bonne version, enfin, qu'on aille tous ensemble ou personne n'aille dans Wildfly, parce que sinon, il y a des incohérences. Pareil avec InfiniSpan, etc. Donc, est-ce que je découpe ça en 4 tâches ou 5 tâches, parce qu'il y a la sous-partie, discuter avec Tristan sur InfiniSpan, discuter avec Sané, etc. Ou est-ce que je dis, j'ai une grosse tâche, je suis en train de la faire, en l'occurrence, très vite, elle va probablement aller dans l'enclos, parce que j'ai pas non plus un accès 24 heures par jour à ces gens-là. Voilà. C'est quoi
on a plusieurs cas pour les traiter, pour traiter ce genre de choses. Tu peux décider de n'avoir qu'une seule carte qui représente l'intégralité de tout ça et en effet ne suivre que cet élément. Sauf que comme tu dis, ça va vite se retrouver dans l'enclos ou ce genre de choses. Bon, ça peut être un choix, hein. Il y a des personnes pour qui c'est plus parlant. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des lignes d'eau en Kanban, c'est-à-dire qu'en fait, on va tracer une ligne et tu vas mettre toutes les tâches qui sont relatives à cette super tâche, en fait, dans cette ligne d'eau, et tu vas pouvoir en fait suivre l'évolution de ta super tâche par des tâches qui sont un peu plus petites. Et la troisième option peut être que c'est peut-être assez gros pour être un board Kanban à part entière et mériter d'avoir voilà un Kanban à côté.
Mais quelque part, la ligne d'eau, c'est un Kanban à part entière, sauf qu'il est sur le même gros tableau.
Alors
blanc,
oui et
quoi,
non, parce qu'en fait, tu vas vraiment avoir, enfin, avoir une limite qui est commune, alors que tu pourrais très bien décider de mettre des limites différentes dans ton autre projet, tu vois.
Qu'est-ce que t'appelles les limites?
Les limites sur tes colonnes que t'es en train de réaliser, la limitation de ton travail en cours, en fait. Tu pourrais descoper complètement.
Tu triches,
tu triches, mais rien ne t'empêche de le faire. C'est
allez,
je
fais trois tâches, mais par projet, puis j'ai 10 projets, du coup, ça marche plus.
Exactement. Donc, et là, en fait, je voulais en revenir qu'il te faudra de toute façon un tableau, enfin un vrai personal Kanban qui te permet de voir l'ensemble de tes éléments, même s'ils sont très macro. Donc, ma solution serait plutôt d'utiliser des lignes d'eau parce que tu vas rendre un peu plus visible et tout en gardant le même contexte visuel d'un seul et unique board, quoi.
D'accord.
Mais il y a plusieurs options qui existent et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent notamment garder une seule et grosse tâche, quoi. Ce qui fait que, d'accord, par contre, elle met beaucoup plus de temps à traverser ta chaîne de valeur, quoi. Là où tu vas avoir l'impression de progresser plus vite avec des petits pas sur les petites tâches, quoi.
Ouais, parce qu'un des problèmes, donc là, moi, j'utilise mes par semaine, et du coup, ça me gêne pas, cette granularité fine, parce que moi, vraiment, c'est la prochaine action que je vais faire, quoi.
Je pense que c'est l'approche la plus réaliste parce qu'elle correspond à réellement ce qu'on fait, tout simplement.
Ouais. Et en plus, du coup, je peux voir, si c'est trop gros, après, tu dis, ah ben non, mais c'est pas, je fais la même tâche, mais en fait, tu fais plusieurs sous-tâches en parallèle, du coup, t'exploses ta limite dont on parlait.
Puis c'est important pour ton cerveau de passer des choses de c'était en cours à c'est terminé.
Ouais.
Il y a un petit côté sucrerie quand tu passes dans cette dernière colonne qui est pas à négliger, en fait.
Ouais. Et du coup, le défi, c'était de connaître le lien entre des tâches, parce qu'elles sont mélangées, du coup. T'as des tâches qui sont liées à des trucs perso, d'autres sur du pro, d'autres qui sont dessous tâches d'une méga tâche dont on parlait, et tu la vois plus physiquement, ce lien, à part si, comme tu dis, soit tu fais deux Kanban séparés, soit des lignes d'eau. En l'occurrence, moi, j'utilise Trello, qui n'a pas la notion de ligne d'eau.
C'est un vrai problème. Alors, pour Trello, on peut utiliser les labels, notamment, donc mettre la même couleur sur les cartes, pour dire voilà, ça c'est les cartes d'un même type, quoi. En essayant de les regrouper, mais sans trop changer l'ordre des priorités, quoi.
Ouais.
C'est l'une des limites de Trello, par exemple.
T'as d'autres outils, donc on a parlé du vrai tableau avec des vrais post-it.
Ouais. Donc Trello, qui fait plutôt bien l'affaire pour des choses assez simples. Et l'autre, alors un nom qui moi me plaît pas trop parce que il me rappelle trop mon ennemi qui sont les listes de tâches à faire, mais qui s'appelle Todo. Alors je suis en période d'essai pour l'instant sur le produit, donc je sais pas. Normalement il y a une version free pour un tableau, donc quand on est tout seul pour gérer son truc, ça doit le faire. Mais je suis pas arrivé à la fin de la période d'essai et je sais pas si on bascule vraiment en mode free ou s'ils vont essayer de nous faire payer. Donc sinon c'est $5 par mois. Mais là pour le coup on retrouve beaucoup plus de choses, une vraie limite du travail en cours, c'est-à-dire qu'il va nous empêcher de déplacer des tâches si jamais on essaye de dépasser une limite. Il va y avoir un calcul du temps de cycle qui va être fait automatiquement pour nous, donc qui peuvent être des choses intéressantes, même si dans Personal Kanban, on se focalise pas là-dessus. Et on peut mettre des lignes d'eau, catégoriser les cartes, voilà. Donc un petit peu plus poussé, ça a été recommandé par Crisp, Crisp qui est une boîte suédoise assez connue dans l'agilité, notamment parce qu'ils ont un gars qui s'appelle Henrik Nyberg qui travaille chez Spotify notamment et Lego et que, enfin voilà, qui accompagne les équipes là-bas. Donc,
D'accord. Et juste pour info, pour revenir à la chaîne de valeur, je ne lui ferai jamais
ça. Ouais, ça s'appelle comme ça, value stream.
Voilà. Ouais, moi, si j'ai tout doux perso, tout doux pro, parce que c'est vraiment des contextes où des fois, je me dis non, il faut vraiment que je me focalise sur le boulot versus sur le pro. Alors, des fois, c'est lié à l'horaire ou voilà. Mmh. Et du coup, je préfère les avoir
séparés,
expliciter ces contextes-là, voilà, pour décider mon prochain en cours, c'est ça.
Mais c'est il y a pas de règle sur là-dessus dans Personal Kanban et c'est vraiment en fonction de chacun. Donc, il faut surtout pas hésiter à faire ce genre de choses, quoi. Si ça correspond et que ça répond mieux à ton besoin et tes attentes, il faut surtout sauter à pieds joints dessus et puis le faire, quoi.
Donc, ouais. Ok, on passe à Getting Things Done. Ouais. Alors, on va remettre le chronomètre à zéro. alors moi, ça fait donc quasi 10 ans hein, que j'utilise. Je viens de regarder. Et du coup, j'ai repris le bouquin. C'est un vieux bouquin qui parle encore de Palm Pilot et de choses comme ça. Donc, il a peut-être mis à jour depuis, mais voilà. Ça n'enlève rien du tout à la méthodo. Il y a des milliards d'outils qui se reconnaissent de cette méthodo. Personnellement, j'utilise un truc qui s'appelle OmniFocus. Un, parce qu'il est plutôt bien fait, et deux, un autre avantage qui est pour Trello, c'est qu'on peut l'utiliser et sur son desktop et sur son téléphone portable, et c'est pour moi un truc vital de pouvoir rajouter quelque chose à faire n'importe où je suis, et comme j'ai mon téléphone n'importe où je suis, ça résout ce problème là.
Ça après les deux, enfin que ce soit Trello ou Todo, il y a des apps aussi. Enfin, j'en ai pas parlé, mais c'est évident aussi. Si on n'a pas une appli qui nous permet de rajouter les choses au moment où on doit les rajouter, faut changer d'outil.
Ouais. Et donc, Getting Things Done, moi, pour info, j'ai 136 projets dedans et j'ai 419 actions. Donc, je vais expliquer tout ça. Mais donc, ça paraît dans Trello, j'aurais 419 post-it. Dans Personal Kanban, j'aurai 419 post-it. Donc voilà, c'est un truc où je suis multitâche parce que je fais plein de choses en parallèle. Alors j'essaie de réduire le multitâche au sens vraiment en même temps, mais j'ai quand même plein de choses que je fais, disons en même temps, mais sur un espace d'une semaine ou d'un mois. Et avant cette méthodo, je m'en sortais plus en fait. Je savais plus quelles étaient mes priorités sur chacun des dizaines de projets. Et c'est pour ça que ça m'a pas mal zénifié cette méthodo. Donc on peut l'implémenter en Personal Kanban, je suis quasi certain. J'ai pas regardé, mais je suis quasi certain. Elle est beaucoup plus prescriptive. Et elle décrit un peu plus loin certaines choses et surtout elle vous impose un process un peu plus fort que Personal Kanban qui vous laisse définir un peu votre chaîne de valeur.
Ouais, c'est ça, ouais.
Donc il y a 5 étapes. La première, c'est la collecte des choses à faire, que ça soit petit, grand, prioritaire ou pas, un but de dans 20 ans ou un but de dans 20 ans, c'est un petit peu particulier, mais quelque chose qu'on aimerait faire ou quelque chose qu'il faut absolument faire. C'est donc la première étape, c'est la collecte. La deuxième, c'est processer cette collecte-là et décider de ce qu'on va en faire. Est-ce que c'est important finalement ou pas? Est-ce que c'est actionnable? Ce genre de choses. Ensuite, c'est organiser. On va parler de liste de projets, de choses de référence, etc., etc. Et on va parler après de revue, qui est quelque chose qui est important. Donc toi, tu parlais de rétrospective. Non, c'était pas ce mot-là.
Rétrospective.
Donc là, c'est une revue qui permet de redéfinir quelles sont les tâches importantes, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'il faut faire régulièrement. Et après, évidemment, il y a à faire. Donc c'est un process un peu plus compliqué, mais qui n'est pas si compliqué à mettre en place. Donc la première fois, quand vous démarrez Getting Things Done, c'est la collecte. Tout ce que vous avez à faire, faut l'écrire. Alors, en l'occurrence, ils recommandent des petits papiers. Alors, vous pouvez utiliser un truc électronique ou pas, mais vous pouvez, dans la version low-tech, vous prenez un panier et vous écrivez les tâches sur un petit papier. Donc, jeter les ampoules, aller acheter ce nouveau truc électronique, acheter des fleurs, etc., etc. Perso, pro, tout ça va dans le même panier, d'accord. Il n'y a pas de, on est dans une, on est des knowledge workers, donc la séparation pro perso, elle est un petit peu arbitraire. Il y a des fois, faut que vous soyez là parce qu'il y a la poste qui arrive pour votre colis totalement perso, et puis il y a des fois, vous avez bossé le soir parce que c'est plus calme, ou deux, vous avez absolument à le faire. Donc la notion de séparer les tâches pro perso, elle est totalement ignorée par Getting Things Done. Il faut littéralement tout mettre, sinon on parle de cette fameuse boucle de les feedback loops qui reviennent. Du coup, ça peut prendre un certain temps, et il y a vraiment, la première fois qu'on le fait, il y a un phénomène de relaxation. On se dit, ah, j'ai sorti tous ces trucs, on pense à des nouvelles idées, etc. Il y a votre cerveau, on sent qu'il a un poids en moins sur le dos. Donc ça, c'est vraiment la première fois. Puis après, on passe à la phase de process. Une fois qu'on est en cycle courant, cette phase de collecte, elle arrive, dès que j'ai quelque chose à faire, je prends mon téléphone et j'écris cette tâche-là. En l'occurrence, je regarde rapidement, est-ce que c'est si important que ça, que cela va au-dessus des tâches que moi je mettais plus ou moins, que j'aimerais faire cette semaine? Oui, à ce moment-là, j'essaie de les prioriser. En l'occurrence, là, je les mets dans mon personnel Kanban de ma semaine. Non, c'est pas grave, elle est collectée. Et puis, dans ma revue à la fin de la semaine ou au début de la semaine, je vais traiter ça et je vais le transformer en action qui va bien. D'accord? Même les trucs récurrents. Donc, si vous devez aller chez le dentiste tous les 2 ans et que le prochain est dans 1 an, vous mettez ce papier-là et puis on va le processer. Deuxième étape, le processer. Alors déjà, on prend le premier papier et on le traite. On dit pas, ça c'est pas un papier super important, je vais prendre l'autre parce que j'étais tellement en panique, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Non, on processe un par un. Donc sans tri, et la première question c'est est-ce que c'est actionnable ou pas. Donc peut-être que j'ai reçu un magazine, il est dans mon panier, je le prends, est-ce que c'est actionnable? Je le mets dans les toilettes parce que je lis ce journal là dans les toilettes, hop, on le déplace dans les toilettes et c'est fini, d'accord. Donc la question c'est, est-ce que c'est actionnable ou pas? Si c'est pas actionnable, peut-être que ça sert plus à rien, donc c'est un prospectus, il va direct à la poubelle. Peut-être que j'aimerais bien faire ça mais plus tard, et donc on met ça dans une liste un petit peu séparée qui est le peut-être plus tard. Donc c'est pas perdu au niveau du cerveau, c'est des listes qu'on va revoir régulièrement. Mais on a décidé de pas le faire maintenant et de pas zoomer là-dessus. Et puis le troisième point, c'est la référence. C'est de dire c'est un truc intéressant ce papier-là, faut que je le garde parce qu'un jour je vais peut-être vouloir avoir cette information. Et donc je vais stocker ça dans un système de référence classé par thème, genre banque A, je sais pas, les impôts, un dossier vacances ou petit truc à faire le week-end, le coupon gratuit de Auchan, ce que vous voulez. Alors moi personnellement j'ai 2 niveaux de référence, j'en ai un qui est physique, donc j'ai littéralement des dossiers suspendus. Je sais qu'Antonio par exemple il scanne tout et il jette les papiers, donc ça c'est une autre approche. Et mon deuxième niveau de référence c'est Evernote, mais vous pouvez utiliser d'autres outils, où je note les choses, y compris les sites web qui m'ont intéressé avec des infos intéressantes. Je le copie-colle, comme ça mon premier réflexe c'est pas d'aller googler, c'est d'aller dans Evernote, de chercher mes notes, et si j'ai pas là-dedans, je vais aller chercher sur internet. Posez question d'ailleurs.
Pour l'instant c'est assez clair. Donc,
si c'est pas actionnable, poubelle, plus tard ou dans mes trucs de référence, d'accord? Ensuite, peut-être que c'est actionnable. Alors, si c'est actionnable, c'est là où faut faire l'effort de réfléchir un petit peu et de dire, ok, c'est un truc qui est actionnable. C'est quoi mon objectif? C'est quoi le projet de ce truc-là? Donc, peut-être que j'ai disque dur cassé. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est de avoir un nouveau disque dur avec les mêmes données dedans. Donc ça, c'est mon objectif, d'accord? Donc je définis ce projet-là. Et ensuite, je définis la prochaine action qui est nécessaire. Donc le disque dur, il est cassé. La prochaine action, ça va être d'aller faire des recherches sur Amazon pour décider si ce disque dur, enfin quel disque dur je veux, par lequel je veux remplacer. Alors des fois, les tâches, elles sont simples. C'est juste une tâche. Donc ça, c'est un mini-projet, mais du coup, on le met en action simple. Des fois, c'est un projet compliqué, mais entre guillemets, parce qu'il y a deux actions successives.
D'accord.
Et ça peut être très débile, ça peut être, je sais pas, aller chercher, par exemple, aller chercher une lampe au supermarché et ensuite monter la lampe. C'est changer la lampe, en gros. Mmh. Mais on l'a séparé explicitement parce que la prochaine action que j'ai à faire, c'est d'aller au supermarché acheter la lampe. Et la deuxième, que je peux faire plus tard, ça sera d'aller monter l'autre lampe. Éventuellement, la troisième, c'est d'aller redéposer ça à la collecte, la vieille lampe. Donc, si c'est un projet, même si, enfin, si c'est plus qu'une tâche, on définit ça en projet. Sinon, c'est une action qu'on appelle action simple qui est dedans. Donc, on a cette liste de projets et cette liste de prochaines actions pour arriver à mon objectif. D'accord? Alors, selon les outils, vous allez juste définir la prochaine action ou vous allez peut-être réfléchir un petit peu et au niveau du projet dire, bah non, faut que je fasse ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, avoir votre liste d'actions. Et après, en fonction de votre outil électronique ou pas, vous pouvez filtrer en disant, donne-moi la prochaine action que je dois faire sur ce projet ou alors toutes les actions. Enfin, ça, c'est un peu de la visualisation. Une fois qu'on a réfléchi et qu'on est d'accord sur l'objectif et qu'on est d'accord sur l'action, il y a trois options. Si l'action elle fait moins de 2 minutes, ce qui est en gros le temps de, en fait, l'overhead de la méthodologie en gros. Si c'est moins de 2 minutes, ça sert à rien de le rentrer dans notre système. On va le faire tout de suite et puis comme ça c'est fini et basta.
D'accord, c'est parce que c'est l'overhead de la méthode. Je me suis toujours demandé d'où venait cette règle des 2 minutes qui paraissait tout à fait logique et cohérente. Hein, autant le faire tout de suite plutôt que de processer une nouvelle tâche. Quoi.
Mais il faut faire gaffe parce que c'est assez prenant dans le temps. Et c'est pour ça qu'on fait pas ça au moment de la collecte. Le moment de la collecte, c'est vraiment surtout la première là où on collecte tout. On va pas se dire « Ah ouais, mais ça va me prendre que 5 minutes de faire ça. » Parce qu'en fait, on est en train de se dériver de la collecte où vraiment on veut tout mettre dans le panier et on est en train de faire une tâche et une autre et au final, 5 jours après, on y est encore.
Presque tu pourrais faire un personal Kanban pour gérer ton GTD. Chacune des étapes. Non, c'est une blague, vas-y.
Ouais, exactement. Non, mais c'est pour ça que je te dis, en fait, c'est des listes de listes, on va voir ça après, du coup, tu peux... Et donc, ok, ça prend plus que 2 minutes, qu'est-ce que je fais? Alors, si je peux, je le délègue. Et c'est en priorité, d'accord? Si je peux, si je suis pas la bonne personne, si...
C'est peut-être une colonne que je vais rajouter dans mon personal comment, ça. J'y ai pas exactement. Pensé.
Donc, je délègue et puis on va voir après dans l'organisation, mais on va voir une liste des choses qu'on a déléguées pour essayer de les suivre, évidemment, un peu régulièrement. Et puis l'autre, c'est je vais le différer, donc on va l'organiser dans la liste des tâches à faire. D'accord? Donc ça, c'était collecte, je récupère tout. Processer, c'est décider qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif, quelle est la prochaine action, et puis est-ce que c'est actionnable ou pas, poubelle, ranger, et voilà. D'accord? Ensuite, on va organiser les choses pour pouvoir être efficace au cours de la semaine. Le premier truc qu'on a, c'est une liste de ces fameux projets, d'accord ? Alors lui, il faisait ça version papier, donc on avait littéralement la liste des projets, et puis après un dossier par projet, si on voulait stocker quelques infos de référence, je sais pas, un prospectus ou des choses comme ça. Ensuite, on a le calendrier, mais qui sont uniquement pour les choses qui doivent être faites ce jour-là. Donc, je dois parler à Guillaume ce jour-là parce que c'est l'heure à laquelle on a décidé de faire l'interview. Donc, ça, c'est dans le calendrier. J'aimerais énormément faire cette tâche-là, ça serait super important. Ça va pas dans le calendrier, ça va plutôt dans... Alors, c'est là où Personal Kanban, c'est sympa parce qu'on peut créer une colonne où on dit les choses que j'aimerais faire aujourd'hui, mais si je peux pas, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais c'est pas contraignant. Du coup, on ressort pas en disant « Ah mince, j'avais tout ça à faire dans mon calendrier, j'en ai fait que 7%, je suis qu'une grosse merde. » Qui est un des problèmes quand on essaie de mettre les tâches dans le calendrier.
Ah, c'est ça, c'est la gestion capacité.
C'est des échecs permanents.
Capacité par rapport à flux, en fait.
Ouais. Ouais, t'as pas trop zoomé d'ailleurs là-dessus.
On pourra en discuter
capacité
après.
Versus flux, d'accord. Ensuite, la liste de rappel des prochaines actions, celles qu'on a différées. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on va pouvoir faire au cours de la semaine. Alors, quand on a des outils, en l'occurrence, on a un projet, et puis sous le projet, on a les listes d'actions, d'accord. Et puis après, c'est l'outil qui vous filtre ces vues-là. Quand on fait quelque chose à la main, on a une liste un peu séparée des prochaines actions. La liste de rappel pour les choses qu'on a déléguées, parce que peut-être qu'on va pas vouloir les avoir sous les yeux tout le temps, mais peut-être qu'on veut les voir tous les 2 jours, tous les 3 jours. La poubelle, toujours important, parce que quelque chose qu'on a mis à la poubelle, on a pu le faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, il y a ce qu'ils appellent, des outils d'incubation. C'est les choses qu'on a dit, ah ouais, ça, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien me mettre à la plongée, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, je vais pas me lancer un projet, je vais pas activement essayer de chercher à avoir mon certificat médical, etc., etc. Je vais le mettre dans mon dossier, enfin, dans ma liste des projets que j'aimerais faire. Alors, des fois, c'est plusieurs listes. C'est, voici la liste des livres que j'aimerais lire, voici la liste des CD que j'aimerais acheter ou écouter, voilà. Les listes des endroits où je veux aller en vacances. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont organisées, qu'on va pouvoir les revoir régulièrement, qui sont en dehors de notre cerveau encore, pour de temps en temps, peut-être tous les mois ou tous les 15 jours, décider d'aller regarder ça et déplacer ces choses-là en projet effectif parce qu'on veut se le lancer dessus, ou alors littéralement les jeter parce que j'irai jamais plonger parce que je sais pas, j'ai mal aux oreilles, ou donc on oublie ce truc-là.
Ok.
Petit conseil sur le nom des projets, essayez de décrire le résultat parce que ça vous aide à clarifier faire machin, c'est trop vague, donc essayez d'être le plus précis possible.
Changer l'ampoule, quoi, comme tu disais tout à l'heure.
Voilà, enfin, ou que la lumière fonctionne dans le... Mmh. Voilà, ouais, un truc comme ça. Ouais, changer l'ampoule, c'est bien, c'est clair, on sait à quoi ça correspond très vite. Et puis, sur la prochaine action, utilisez des verbes, parce que si c'est pas actionnable, c'est pas censé être une action. Donc, c'est aller au supermarché. Ou acheter la lampe au supermarché, etc. Si c'est genre, je sais pas, de temps en temps, je me prends et j'écris un truc qui est pas une action, c'est juste un état. Et c'est pas la bonne façon de faire. Vaut mieux écrire une action.
Là, ça, c'est un super tip, ça. Je connaissais pas. Je pense que je vais essayer de m'appliquer à faire ça, moi.
Ouais, tu commences par un verbe, ouais. En gros, tout simplement. Donc, le calendrier, on en a parlé. Le calendrier, c'est super pour les choses, vous rappelez le rendez-vous tous les 2 ans, tous les ans, tous les 6 mois chez votre dentiste. Eh ben, le calendrier, c'est un truc génial. Vous mettez un truc qui se rappelle tous les 6 mois, surtout si il est électronique. En tout cas, vous le mettez. Vous n'avez pas à y penser avant dans 6 mois. Ou alors, il y a un truc important, les impôts, mais vous n'avez pas démarré avant 1 mois avant la deadline. Eh ben, vous mettez un rappel, commencez à réfléchir aux impôts 1 mois avant la deadline. Comme ça, vous avez le calendrier qui est un des outils que vous regardez. Donc, vous allez regarder votre liste de projets, votre liste de prochaines actions, la liste des choses que j'ai déléguées, la liste des choses que j'aimerais faire un petit peu moins régulièrement et votre calendrier. Voilà, c'est les 5 outils. Il n'y a pas d'autre chose et c'est vraiment vous focaliser là-dessus. Ah si, il y a la collecte, mais que vous allez regarder régulièrement quand vous allez faire votre revue. Et puis, pour revenir à Kanban, il y a un truc intéressant qui est le contexte. Donc, la liste des tâches, si vous avez 20, 30 tâches des prochaines actions, faites qu'une seule liste et basta. Si vous vous mettez à vous dire, ah ouais, mais en fait, j'en ai plutôt 150, et donc ça, c'est plutôt moi, puisque j'en ai 400 quelque chose, et c'est là où lui, il amène la notion de contexte. Alors, le contexte, il est très vague, on fait vraiment ce qu'on veut, mais il donne des exemples. On peut imaginer, c'est un contexte de téléphone, alors c'est appeler des gens au téléphone, donc peut-être que je suis en train de promener le chien et je vais pouvoir faire des appels téléphoniques. Donc, je vais avoir ma liste de contexte téléphone et puis je vais voir les tâches que je peux faire dessus. Peut-être que c'est vous avez un meeting régulier sur un projet, le projet de Nouvelle Sauce Tartare. Vous voyez les gens régulièrement toutes les semaines. Il faut que vous leur parliez de quelque chose précisément, vous allez mettre la tâche là-dedans, et du coup quand vous serez dans le contexte de ce meeting-là, vous aurez exactement les tâches que vous voulez faire. Pareil si vous avez des 1-1 avec des collègues.
D'accord. Ou... C'est une information complémentaire à tes listes existantes, c'est des sortes de labels.
Ouais, alors dans Omni, ils appellent ça des contextes, mais dans OmniFocus par exemple, tu as ta vue projet. Mm-hmm. Et chaque projet a une liste de tâches en dessous, donc c'est une liste avec, c'est un tab pour la liste des tâches. Et tu as la liste et à une tâche donnée, donc est associé un projet et est associé un contexte. D'accord? Ce qui fait qu'ils ont aussi une seconde vue qui est la vue contexte, où tu as cette liste de contexte qui te dit, voilà les X projets qui ont ces contextes-là et voilà les tâches spécifiques dessus. Ça peut être supermarché, ça c'est super utile. Donc vous savez exactement, il faut que je change la lampe. Parce qu'en fait, vous allez vous rappeler que vous n'avez pas acheté l'ampoule quand vous serez devant la lampe, que vous appuierez sur allumer et puis que ça ne marchera pas. Et là, vous ne serez pas au supermarché à ce moment-là.
Ok.
Code, peut-être, je sais pas, à voir quoi. Moi, personnellement, les contextes, ça marche pas hyper bien pour moi, donc je les mets, mais en fait, je les utilise quasi jamais. Il y en a d'autres pour qui c'est plus important. Je pense que comme on est beaucoup dans une approche dématérialisée avec l'ordinateur sur lequel on peut faire beaucoup de choses, c'est pas si utile que ça, à part les choses explicites de déplacement, donc les supermarchés ou les errands, comme ils disent en anglais, hein, de manière générale. Ça, c'est utile. Ou alors à la maison versus au bureau, parce qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez pas faire. Changer l'ampoule physiquement, c'est à la maison, par exemple.
Ok.
Eh ben, je crois que j'ai fait le tour de organiser. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire 100% confiance à ces outils. Sinon, votre cerveau, il se met à refaire des boucles de feedback. Et vous allez échouer, c'est pas grave. Vous allez échouer, c'est sûr, quoi. Moi, j'ai échoué. Pas mal de fois maintenant. Ça fait longtemps que j'ai pas rechuté, pour être honnête, mais bah on se met à plus mettre les tâches dans le panier pour après les processer, les organiser, etc. Ce qui fait qu'on se dit, ah non, attends, je vais prendre mon cahier, je vais faire une petite to do, mais juste temporaire
Ouais.
là, parce que voilà. Et c'est là on part en sucette. C'est pas grave, vous recommencez, vous dites je refais ma collecte comme si je démarrais de zéro, sauf que vous avez déjà une liste existante et vous allez juste la rajouter, vous faites un reboot. C'est pas grave, ça fait partie du process d'apprentissage. Moi, ça m'a pris au moins 5 ans avant de plus rechuter. Le mec Dan Allen là qui a inventé cette approche, enfin qui a compilé cette approche, pareil, il dit mais moi je rechute tout le temps, vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave parce qu'il y a un process pour redémarrer. Donc on a fait quoi? La collecte, on a fait le processing, on a fait l'organisation. Donc on a nos listes pour pouvoir travailler efficacement et c'est là où moi j'utilise Personal Kanban et Trello spécifiquement parce que dans la semaine au jour le jour j'aime bien avoir cette liste visuelle et les déplacer en train d'être fait avec ma limite de 3 et puis après fini. Qui est un truc que par exemple OmniFocus fait pas très bien. Ça pourrait être intégré dans l'outil mais après voilà, en l'occurrence c'est pas. Et puis il y a un truc qui est hyper important, c'est la revue. Donc la revue c'est de dire ben, je vais prendre ma liste de projets. Et chaque semaine, je vais regarder, ok, j'ai fini cette action, est-ce que j'ai quelle est la prochaine action? Est-ce qu'il y a une repriorisation à faire? Est-ce que voilà, il faut l'abandonner? Est-ce que etc. Et le panier de collecte, il faut le vider, passer par les étapes de processing et d'organisation pendant cette revue. Donc moi, je suis dans mon bain, j'ai mon téléphone ou mon iPad. Et je gère ce truc-là avant de démarrer mon lundi matin. Comme ça, lundi matin, je sais exactement vers quoi je vais.
Donc on sait tous maintenant que tu prends des bains le dimanche soir,
Voilà, je prends souvent des bains le dimanche soir. Et puis, pour faire, qui est quand même le truc, parce que là, on se dit, putain, il a passé 90% de son temps à organiser son travail pour pouvoir le faire. Donc, faire, qu'est-ce qui fait que je décide d'une tâche versus une autre? C'est un, le contexte, donc exactement ce que tu racontais. D'accord, bah là, je suis dans les transports, donc je vais pas pouvoir ouvrir l'ordinateur pour coder parce que je suis debout. Par contre, je peux peut-être lire un truc sur un Instapaper ou quelque chose comme ça. Le temps dispo avant ma prochaine interruption virtuelle, mon énergie disponible et en dernier la priorité. Donc moi, ce que j'aime bien dans Personal Kanban, enfin, en tout cas dans les approches avec les post-it là, c'est qu'on met le post-it le plus important en haut. Donc il y a une ordonnance naturelle qu'on peut modifier très vite. Donc ça j'aime bien, mais ce qui est important quand même, c'est le contexte, le temps dispo, l'énergie dispo,
Exactement. Et sans
et
visualisation, c'est
après la
compliqué, hein,
priorité.
de pouvoir l'avoir, ce contexte.
Exactement. Bah, par exemple, donc contexte, c'est facile par exemple dans OmniFocus. Temps dispo. Normalement, on peut mettre le temps estimé d'une tâche, mais bon, en l'occurrence, enfin, moi, je le fais pas. Énergie dispo, bah, c'est pas vraiment écrit. Donc, moi, pendant un moment, je l'avais mis dans les contextes. C'est le contexte, j'ai le cerveau explosé, donc c'est des trucs simples à faire. Tu fais tes expenses, des conneries comme ça. Et puis, la priorité, pareil, c'est un truc. Alors, c'est un truc qui est pas très bien fait dans OmniFocus. Il y a la liste des prochaines tâches. Et puis on peut flaguer certaines choses pour réduire un peu ce monceau. Donc moi j'en ai 400, donc c'est ingérable de regarder les priorités quand c'est pas ordonné. Donc ce que je fais toutes les semaines, c'est que je flague celles que j'estime je dois vouloir faire dans la semaine ou j'aimerais faire dans la semaine. Et à ce moment-là, je prends ces tâches-là, je les mets dans Trello et je les ordonne. Et je change l'ordonnancement au fur et à mesure de la semaine. Je rajoute celles qui arrivent. dans la journée, enfin, juste parce qu'on a toujours des priorités qui arrivent au dernier moment et des choses comme ça.
Ouais, je pense que c'est important, c'est d'avoir des méthodes qui te permettent de t'adapter, quoi, quand même. Parce que t'as beau prévoir, ouais, ça se passe jamais comme tu le veux, quoi.
Ouais. Et ce qui est marrant, donc j'ai relu une partie du bouquin. Le bouquin, il est pas très long, hein. Mais moi, je suis pas un lecteur très rapide. Mais en tout cas, si vous lisez le premier chapitre, c'est en gros le résumé de tous les autres chapitres. Et après, il va dans le détail. Et puis, comme ils aiment bien répéter, les Américains, on se dit, ouais, bon. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, ce que j'ai vu, c'est que j'ai des problèmes. Par exemple, déléguer aux gens et être sûr de pas perdre le fait que tu as délégué, qu'il faut leur rappeler les choses, etc. C'est un truc que je faisais pas super bien, et ben j'avais oublié que lui il avait une tâche, enfin une liste explicite des choses qu'il avait déléguées pour pouvoir recontinuer, par exemple. Pareil, un jour plus tard, j'avais tendance à les mélanger, donc c'est pour ça que j'ai autant de projets aussi, c'est qu'ils sont un peu mélangés avec les un jour plus tard. Donc là, je vais peut-être essayer de raffiner mon approche. Et donc c'était marrant de relire ce truc-là en disant, ah bah en fait il a résolu le problème que j'ai. C'est juste que je m'étais adapté la méthodo à mon au trio qui est la méthodo, moi, mon usage et l'outil. Et c'est bien, hein, genre j'ai beaucoup ça m'a apporté beaucoup pendant 10 ans. Et il y a d'autres choses à, enfin, et on peut toujours l'améliorer à la marge, mais du coup j'avais dévié de cette méthodo, c'est pas bien grave. Là, je m'aperçois qu'il y a des choses et il faudrait peut-être que je revienne à l'approche orthodoxe, mais c'est pas grave d'avoir dévié finalement.
Non, c'est parce que ton contexte faisait que c'était le moment de dévier un peu, parce que ça assouplissait peut-être les choses et que ça te convenait mieux à ce moment-là, quoi.
Ouais, puis je déléguais pas tout, c'est ce que je faisais à l'époque, tu vois, il y a 10 ans. Donc j'avais pas ce problème-là, par exemple.
C'est
des problèmes qui évoluent en fonction de ce qu'on fait et ce qu'on fait plus. Voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, ça c'est Getting Things Done. Donc c'est plus compliqué. Je sais pas si c'était clair la description.
Si. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu mettes un lien dans les show notes sur le process, parce que je sais qu'il est modélisé et qu'on peut le trouver assez facilement. Ça explique.
Ouais, il y a un petit diagramme simple qui explique ça. Je mettrai un lien comme ça visuellement, vous allez voir ce que ça fait. Alors au niveau des outils, donc ça peut être cahier. Idéalement cahier avec les feuilles qu'on peut séparer parce que vous allez bouger des choses d'un endroit à l'autre. Ça peut être un panier physique. Alors moi j'ai un panier physique et j'ai mon panier virtuel dans l'outil électronique qui est OmniFocus. J'essaie vraiment. Ah oui, il y a un truc important, je mets tout. C'est-à-dire que mes emails, c'est pas une liste de tâches. Mes emails, quand je suis en train de le lire, je me dis ah mince, il y a des choses à faire et j'ai pas le temps, je le remets pas en non-lu. Enfin, en tout cas, j'essaye. Ce que je fais, c'est que je crée la tâche ou l'action ou je la mets dans mon panier, dans OmniFocus. Et l'email, il est lu. D'accord. Okay. Donc, j'ai cette approche un peu zéro inbox. En tout cas, j'essaye.
En fait, tu dis à ton cerveau, j'ai vu, j'ai pris note et je l'ai placé là où ça doit être placé, quoi. Du coup, il va moins t'embêter. Voilà. Chose que moi, par exemple, j'ai dû beaucoup de mal à faire et je les remets en non-lu. Alors qu'en fait, je devrais juste créer, comme tu fais, une tâche pour dire il faut que je traite cet email, quoi.
Ça pourrait marcher hein, de les laisser en non-lu si tu es au courant que les non-lu, c'est des actions explicites que tu dois faire, etc. Sauf que les emails, ils passent très vite. D'abord, c'est un mélange entre les choses qui arrivent et les choses que tu as décidé qui devaient être actionnables. Donc peut-être qu'il faut le mettre dans un sous-répertoire de tes emails. Et puis on sait que très vite, les emails, on passe de 10 non-lu, 100 non-lu, 400 non-lu, 2000 non-lu, puis après, c'est difficile. Ouais. Voilà. Et donc les outils, moi c'est OmniFocus, mais alors c'est que sur Mac. Et il y en a d'autres. Je pense que Things, peut-être Todo même, il y a des choses. Mais tapez Getting Things Done, il y a 5000 outils.
Je sais qu'il y avait un plugin pour le Gmail à un moment. Alors est-ce qu'il...
Ouais. Après il y en a qui suivent plus ou moins précisément la méthode, hein. Mais par exemple les contextes, il y en a qui les ignorent. Voilà, il y a des petites choses. Il y en a un autre qui s'appelle Thinking Rock qui est open source, l'interface elle est un peu brutasse, mais et ils ont pas cette approche avec un truc sur ton téléphone, mais je l'utilisais au début, par exemple c'est mon premier outil que j'ai utilisé pour ça. Voilà, donc il y en a plein, je vais pas dire que ça marche que pour Mac, hein, mais il y en a plein et voire même Trello, et vous utilisez des colonnes. Les listes dont j'ai parlé là, la liste des peut-être un jour plus tard, la liste des actions, prochaines actions, la liste des projets. Vous pouvez très bien imaginer que c'est un peu la chaîne de valeur au sens personnel Kanban. Ensuite, vous rajoutez en train d'être fait et fini. Et hop, vous avez le joli mélange entre les deux méthodos finalement.
Ouais, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est notamment ton usage, c'est que tu peux facilement coupler les deux, notamment sur la partie pure réalisation de GTD, où moi, quand j'avais découvert et parcouru un petit peu GTD, c'était la chose qui me manquait, quoi. Dans ce qu'il y a à faire, comment est-ce que j'actionne, laquelle tâche je prends, et il me manquait le côté visualisation de mon contexte, quoi. Ouais. Je pense que c'est un truc que tu as dû retrouver en l'utilisant et en préparant ta semaine comme ça au travers des tâches que tu vas avoir à réaliser dans un board un peu plus spécifique. Ouais. Quoi.
Ce qui me manquait beaucoup, c'était la sensation de progression. Mmh. Ce que je savais pas qu'il me manquait, c'était la limitation du débit. Pareil, ce que je savais pas qu'il me manquait, c'était la fluidité avec laquelle ces outils-là peuvent permettre de mettre une carte au-dessus d'une autre en termes de priorisation. Donc ça, c'est hyper important. Enfin, c'est hyper pratique, en fait. Voilà. Et donc, je mets tout dedans, littéralement. Dès que je pense à un truc, paf, paf, je le mets. Et des fois, c'est un peu méta, mais c'est penser à réfléchir au projet. Enfin, peut-être que ton projet, c'est, je sais pas, conquérir la Lune. Et première étape, réfléchir aux étapes du projet pour conquérir la Lune.
Mais au moins, tout est marqué.
Et au moins, c'est dedans. Et quand tu décides de pas le faire, c'est qu'il y avait d'autres choses devant. Et du coup, il y a un petit côté serein, parce que je l'ai pas mis dans le calendrier comme chose indispensable, mais il y a un côté serein avec ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait.
Ok. Juste, je voudrais en profiter, ouais. Là, on en a parlé. Si t'as terminé sur la partie...
Ouais, j'ai terminé.
Revenir, tu me posais la question sur la différence, enfin sur le travail, le voir en tant que flux. Et t'as dit le mot de débit, en fait. Tous les outils qu'on a pour gérer notre temps, qu'on passe du MS Project à Google Calendar, enfin voilà, quel que soit l'outil pour gérer son temps, on représente toujours ça comme des cases, des boxes dans lesquelles, voilà, avec une granularité plus ou moins fine à la minute, à la demi-heure et tout ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, on gère notre temps et le travail qu'on a à faire comme de la capacité. D'accord. Combien est-ce que je peux faire rentrer de choses à l'intérieur de mes boîtes qui sont censées représenter mon temps. Or, il s'avère que notre temps, c'est plutôt combien de choses peuvent circuler en même temps durant cette période. Et l'image que j'aurais, c'est qu'en fait, on contient pas notre travail, on le réalise. D'accord. Donc, on voit déjà que rien que les outils qu'on utilise ont un biais et que ce biais, en fait, c'est lui qui nous met généralement dans la panade et qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Moi, j'ai été pendant longtemps à utiliser l'agenda d'Outlook où je mettais tout dedans et je débordais, il fallait que je repriorise tout, ça rentrait pas, puis au final, je terminais rien. Et la petite image que je vais avoir pour ça, c'est l'image d'une autoroute. Une autoroute, ça a une capacité, hein, c'est-à-dire la capacité d'une autoroute, on va dire entre 2 PH, et le nombre de voitures qu'on pourrait mettre entre le premier et le deuxième PH. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une autoroute, à partir de 65% de sa capacité, elle est congestionnée, et qu'à 100% de sa capacité, ça s'appelle un parking. Voilà. Je pense que c'est l'image la plus parlante, c'est que si vous remplissez une autoroute avec toutes les voitures qu'elle peut contenir, et il va plus rien se passer, plus rien va avancer. C'est exactement ce qu'on fait avec notre boulot lorsqu'on essaye de le gérer comme une capacité plutôt qu'un débit. Voilà, c'était la petite.
D'accord.
Le petit point sur la manière dont il faut qu'on pense notre travail, et éviter de parler de capacité, mais plutôt de nombre de choses qu'on peut faire.
En fait, le temps, c'est effectivement un truc fixe, mais par contre, le travail, c'est plus un outil qui te permet d'envoyer du débit pour exécuter les tâches, ouais, que une capacité max que tu pourrais améliorer, voilà, optimisant des choses.
Alors, en fait, surtout ce qu'il y a, c'est que on se fait avoir, hein, par nos outils, où, comme on dit, on sait faire, on a le temps de le faire, puisqu'on a des boîtes encore de libre dans notre agenda, et donc on met des choses dedans, sauf qu'en fait, c'est pas la réalité, quoi. Faites, ouais, attention à ça. C'était ma petite alerte du jour.
Donc, j'ai des trucs où je suis pas forcément toujours hyper content même de ces méthodos, c'est qu'on a peut-être un peu tendance à aussi à chasser les petites tâches pour diminuer le volume. Tu vois ce biais-là, toi, ou pas?
C'est-à-dire, en fait, tu veux réduire ton backlog et du coup, tu vas te faire plein de petites tâches alors que c'est pas forcément les bons trucs.
Je pense que naturellement, t'as envie de réduire la taille du backlog au sens graphique. Ouais. Et que du coup, tu dis, ah ouais, non, mais la tâche, il faut que je réfléchisse 2 heures d'affilée. En gros, idéalement ininterrompue pour finir ce truc-là. Je préfère plutôt me faire ces 5 petites tâches, appeler le plombier, machin, pour... comme ça, ça débite, quoi, ça dépote.
Ouais, tu fais des choses et t'es content. Est-ce que c'est pas un des aspects principaux d'avoir une satisfaction personnelle par rapport à ce qui était fait? Si tu décides de faire ces petites tâches à ce moment-là, c'est parce que t'es sûrement pas dans le meilleur état d'esprit ou dans les meilleures conditions pour réaliser ta tâche de 2 heures. Et c'est là où les revues de personnel Kanban, moi je trouve, apportent vraiment quelque chose. Quand tu te poses cet ensemble de 6 questions pour essayer de détecter tes patterns, et ben la question, en fait, tu te la poserais pas. Et si c'est le moment de faire plein de petites tâches parce qu'en fait t'as pas l'énergie si tu t'attaques pas la grosse. Enfin, moi je le vois comme ça après quelques années d'utilisation. C'est que si je me mets à faire plein de petites tâches pour essayer de réduire le backlog, c'est parce qu'en fait j'ai pas l'énergie pour réaliser ce que je devrais réellement faire à ce moment-là. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je sais pas. Si derrière ça me repermet de me rebooster un peu pour faire des choses un peu plus pas sérieuses, mais un peu plus contextualisées, c'est pas une mauvaise option. Il faut pas que ça soit, faut pas, peut-être pas que ça arrive trop souvent, quoi. Mais si ça t'arrive une fois de temps en temps, c'est peut-être pas un gros problème.
Ouais.
Mais oui, en effet, c'est une question de facilité. J'ai 5 tâches que je peux faire dans 1 heure, alors que l'autre, je sais que j'en ai pour une demi-journée. C'est tentant.
Il y a un petit côté, un bref plaisir à avoir fini une tâche. Tu procrastines depuis un certain temps, tu dis bon allez je le fais, et puis là tu dis waouh, trop bien, ça y est,
mais voilà,
elle est sortie, quoi.
La revue de personnel Kanban, elle adresse ces cas-là, elle dit est-ce que j'ai fait la bonne tâche au bon moment, et quand tu feras la revue, que tu as fait tes 5 petites tâches, et tu pourras dire non, j'ai clairement pas fait les bonnes tâches au bon moment, et comment est-ce que je peux faire pour me mettre dans une situation où je reproduis pas ce cas-là, quoi.
D'accord. Un autre truc, c'est que enfin, en tout cas, GTD, ça peut prendre du temps. Moi, vu que j'ai 400 tâches, 150 projets, 130...
Les revues doivent être un peu longues, des fois.
La revue, c'est pas 10 minutes, quoi. La revue, c'est quand ça défile bien, c'est 1 heure.
Ouais.
Donc, du coup, tu te dis, mais est-ce que je suis pas en train de construire un outil, tu vois, qui prend plus de temps que ce que ça me ramène? Je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a... Je sais pas si t'as ce défi-là dans Personal Kanban, ça a l'air un peu plus incrémental.
Exactement, en fait, ce que j'allais dire, c'est que la repriorisation, elle a lieu quasiment à chaque fois que tu dois commencer une nouvelle tâche. Donc, tu peux faire une revue presque, même si c'est succinct, mais de l'ensemble des éléments. Comme on a un seul et unique backlog dans Personal Kanban, de préférence, tu jettes un coup d'œil, peut-être des fois rapide, mais tu vas le faire sûrement un peu plus souvent. Et c'est comme de l'automatisation, les trucs qui te prennent du temps à faire, plus tu les fais souvent, plus tu les automatises et plus c'est rapide au final, quoi. Voilà. Si tu vas revoir ton backlog 3 fois dans la journée, tu passes moins de temps à le regarder à chaque fois, quoi. Alors attention, ouais, ça peut avoir des effets piégeux, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui est tout en bas, tu l'oublies complètement, quoi.
Ouais. Bah oui, si t'en as 400, ouais. Voilà.
Est-ce grave? Est-ce que c'est pas grave? Je ne saurais pas répondre.
C'est marrant, ça rappelle un peu les garbage collector poseless versus pause, quoi. Parce que moi, c'est pause, tu vois, t'as le truc, t'as 1 heure toutes les semaines, tu traites tout, ouais. Tu priorises, et après, t'as un cadre. Versus, à chaque fois, et c'est littéralement comme ça les poseless, et à chaque fois que...
C'est un peu ça. Alors,
je déplace un objet, c'est là où je vais payer un petit coup supplémentaire.
Après, pour du la gestion de travail perso, je saurais pas dire lequel est le mieux et s'il y en a un qui est plus avantageux que l'autre. C'est vraiment deux stratégies différentes, quoi. C'est tout.
Ouais. Ouais. Un truc que moi j'ai appris, c'est que en tout cas quand vous êtes à ces volumes de projets, c'est peut-être que enfin vous allez pas même tous les faire en un an, quoi. Donc peut-être qu'il faut faire l'effort de réalisme et de décider que non, ce truc-là, vous le ferez pas, vraiment pas tout de suite. Et du coup, le mettre dans d'autres tâches ou la tâche peut-être plus tard ou voilà, pour libérer un peu en termes de fluidité. C'est pas oublié, c'est dans une liste que vous allez regarder régulièrement, mais peut-être moins régulièrement. Et du coup, ça vous permet de fluidifier le travail, enfin l'utilisation quotidienne de l'outil. Voilà. Donc ça, c'est un truc, je sais que je vais essayer de travailler vers ça.
Ouais.
Mais bon, idéalement, vous n'êtes pas comme moi à essayer de démarrer 5 milliards de trucs en parallèle. Voilà. Et en tout cas, ouais, s'il y a un truc à retenir, c'est un, ce mode panique, je sais pas quoi faire, j'arrive pas à avancer, c'est vraiment libéré. Et deux, si vous lisez bien ces entrées, quelle que soit l'une des deux méthodes, vous êtes un peu relaxé sur les choses que vous n'avez pas pu faire.
Et ouais, exactement. Que, ouais. En fait, j'ai un petit truc là sous les yeux qui est, je sais pas si tu connais la matrice de Covey, qui est, ouais. Ou d'Eisenhower, parce que c'est lui qui l'a rendu un petit peu populaire, on va dire, avec le important, urgent, et en fait, on vient de dire que quand c'est important et urgent, c'est une mission critique et c'est le cadran de la nécessité. En fait, dans Personnel Kanban, ça a été un peu revu et tout est un peu inversé. Et en fait, le important et urgent, c'est le cadran des urgences. Et ça, c'est le cadre. Enfin voilà, c'est l'endroit de la panique et c'est le lieu où on veut jamais être, quoi. Donc on inverse les choses en se disant que si on arrive à gérer, à bien visualiser et à prendre les tâches au bon moment, on devrait travailler en fait dans le non important, non urgent, 80% de notre temps, quoi.
Ouais.
Voilà. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des urgences, hein, mais elles seront, ben voilà, comme on le dit, sera vraiment des cas aux limites qui arriveront le moins souvent possible.
Et du coup, je saute de sujet, mais si votre équipe a Bugzilla, voire Kanban ou ce que vous voulez, les tâches que vous avez pour vous, vous allez les copier dans votre méthodo, quoi.
Ouais.
Pour qu'elles rentrent dans votre flux.
Exactement. Exactement. Il y a une vue qui est la vue de l'équipe, du projet, voilà. Et après, vous avez votre tambouille interne avec une chaîne de valeur qui peut être différente en fonction de ce que vous attendez de vous-même.
Ouais. Et puis, moi, j'ai un dernier outil qui m'aiderait bien. C'est un truc où tu peux ouvrir ton email pour écrire un email, mais sans lire les autres emails. Parce qu'un truc où je me fais avoir à chaque fois, c'est, ah, il faut que ma prochaine tâche, c'est écrire ce truc-là. Tu l'ouvres et tu dis, ah, oh, il y en a 10. Et donc, tu te mets à les ouvrir et le regarder, ouais. Processer. T'as oublié ce que tu voulais faire. Heureusement, Personnel Kanban, t'avais déjà déplacé le post-it vers en train d'être fait. Donc, tu te rappelles, ah oui, c'est vrai, c'est ça que je voulais faire. Ce qui m'aide énormément. Donc, c'est catastrophique, mais c'est un truc qui m'aide. Mais il y a toujours ce hyper mauvais réflexe de dire oh, c'est pas vide, il faut que je le processe.
Ouais, bah ça c'est un truc sur bah ça c'est le coach de vie là qui m'avait appris ça, une boîte mail, ça reste du travail que les autres ont décidé pour toi, quoi.
C'est
donc
clair.
Donc il faut savoir s'en détacher un petit peu.
Ouais. Qu'après, t'as les stratégies, tu lis que tous les 2 heures ou tu mets des créneaux l'email. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu mets une tâche lire les emails ou pas?
Ça peut être le cas en fonction.
C'est en fonction des fameuses tâches récurrentes dont
ouais,
tu parlais là.
Ça peut
là.
Être les tâches récurrentes que tu peux en effet décider de faire toutes les 2 heures et puis voilà. Après, à titre perso, non parce que j'ai pas le cas. Enfin voilà, je ressens pas le besoin. Ça m'est arrivé quelquefois. Ça dépend vraiment de mon contexte. Si je m'aperçois que il faut vraiment que je sois pas dérangé et tout ça, je peux le faire en fait. Comme ça, je coupe complètement et j'y reviens que quand c'est le moment d'y revenir, quoi.
Ouais.
Après, le truc dont on n'a pas parlé, enfin si t'en as un petit peu parlé, mais on peut utiliser Pomodoro en plus hein, pour essayer de se focaliser un peu plus sur les tâches et notamment dans Pomodoro, on dit on coupe tout et pendant 25 minutes on fait que ce truc-là. Ça peut être un outil complémentaire à la réalisation des tâches en cours.
Ouais. Ouais, ça et couper Twitter
Ah oui, non,
ou
mais
enfin couper les
quand
notifications.
je dis Pomodoro, pour moi, ça inclut tout ça. Hein. C'est couper toute notification et se concentrer complètement sur le sujet, quoi.
Mais c'est un truc pervers parce que des fois on se dit, écoute, je vais couper Internet, comme ça va être clair. Et en fait, 2 secondes après, on dit, ah ouais, mais j'ai besoin de cette info. Donc,
Mais
c'est
tu le fais
un.
consciemment, tu vois, c'est ça change beaucoup de choses.
Ouais, mais t'es obligé de le rallumer quand même. Voilà, je sais pas si t'as un mot de la fin ou. Bah, on a une liste de ressources qu'on a mis. Donc, il y a le bouquin de GTD, les outils dont on a
Le
parlé.
bouquin, je crois qu'il y aura un lien vers le bouquin de Personal Kanban aussi.
Voilà.
Il y a le site aussi, et puis les Twitter des deux co-créateurs de la méthode. D'ailleurs, j'en profite, Jim Benson sera à l'INCAMBRE en France au mois de novembre. Donc, vous pourrez
D'accord.
discuter du sujet avec lui.
Il a un peu d'ego, son Twitter, son handle.
Un petit peu.
voilà, et puis Todoc, toi tu es en train d'essayer.
Ouais.
Et puis ta presse à Devox, parce que tu avais expliqué Personal Kanban, ça montre un peu plus graphiquement comment les choses arrivent là qu'un podcast, parce que audio, parce que
Tout à
c'est un peu
fait. Et
plus difficile
puis on rentre un
forcément.
petit peu plus dans le pourquoi ça fonctionne et tout avec
Voilà.
voilà, en allant un peu plus dans le
Ouais.
détail sur tirer versus pousser, voilà, plein d'éléments complémentaires, quoi.
Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci,
Ben, merci à toi,
merci de
Emmanuel.
cet échange. Voilà. On a appris tous les deux et en espérant que vous aussi, auditeurs, vous ayez appris des choses.
Allez, bonne journée à tous.
Allez,
Au
ciao.
revoir.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.